12h, 13h30, les midis de culture. Géraldine Mosna-Savoie, Nicolas Herbeau.
La musique classique est au cœur ce midi de ce débat critique avec d'abord un opéra contemporain signé du compositeur britannique Thomas Hades et inspiré par le célèbre film du surréaliste Luis Buñuel, L'Ange Exterminateur. Nous parlerons ensuite du Quatuor Modigliani qui reprend dans son nouveau disque les compositions du Norvégien Grieg et du Tchèque Smetana, deux œuvres très intimes mises en lumière par ces quatre interprètes.
Et pour en débattre, nous avons le plaisir d'accueillir Emmanuel Dupuis. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef du magazine Diapason. Et bonjour à vous, Christophe Candoni.
Bonjour.
Vous êtes journaliste culturel sur Scène Web. Bienvenue à tous les deux dans les Midis de Culture.
Et nous commençons ce débat critique avec L'Ange Exterminateur du compositeur Thomas Hades à l'Opéra Bastille. Bienvenue dans la haute société. Après avoir assisté à un opéra, un groupe d'amis termine donc la soirée autour d'un bon repas tardif dans un manoir représenté sur scène par une grande pièce blanche, salle à manger cathédrale qui occupe toute la scène. Une très longue table aussi pour accueillir la quinzaine de convives et cette porte monumentale en fond de plateau. D'apparence, tout semble normal, sauf peut-être au début la disparition du personnel de maison. Une étrangeté qui grandit encore quand on ne sait pas pourquoi les invités ne peuvent pas quitter ce manoir. Et la bizarrerie explose finalement quand au fil des jours enfermés, les personnages vrillent totalement. La bourgeoisie finit affamée, assoiffée, totalement déshabillée. Il y a du sexe, parfois même entre un frère et sa sœur, des bagarres, du sang qui gicle, qui tâche, de la vaisselle qui vole dans tous les sens, un mort, une recherche d'eau qui mène les interprètes à démonter le parquet de cette salle à manger. Le tout accompagné par la musique du compositeur britannique Thomas Hades qui a dirigé les premières représentations à l'Opéra Bastille et qui a fait aussi appel à la musique électronique. C'est intense, c'est exigeant pour tout le monde, sur scène mais aussi dans la salle. Avez-vous eu cette même impression, Emmanuel Dupuis ?
Exigeant, oui. Enfin, moi, j'ai surtout eu l'impression de prendre une grande claque dans la figure, comme on en prend rarement à l'opéra. Alors, ça tient d'abord au sujet, le film de Buñuel, qui est bon, un film sous influence surréaliste, mais un film assez délirant et un film qui se prête très bien à une adaptation scénique parce qu'il s'agit d'un huis clos. Et d'ailleurs, bon, évidemment, les dialogues ont été condensés, ont été réécrits pour les besoins de l'opéra. Mais malgré tout, l'essentiel de la matière dramatique du film a été préservé. Alors sur le plan musical, on n'est pas dans une forme classique, hein, c'est-à-dire une succession de grands airs comme on entend souvent à l'opéra. On est plutôt dans une forme de conversation en musique, mais avec quand même des interventions solistes assez marquantes. Par exemple, l'intervention finale de Laetitia, la diva, qui est présente à cette réunion de grands bourgeois. Et qui, à la fin, effectivement, dans un grand monologue, un grand air, en fait, pour le coup, trouve la solution pour libérer les convives de la malédiction qui pèse sur eux. Il y a aussi des duos, de grands ensembles, en particulier une grande scène d'hystérie à l'acte 1 quand les convives comprennent que la situation leur échappe. Moi, je trouve cette écriture vocale. Bon, effectivement, la tonalité dominante, c'est une forme d'expressionnisme assez tendu, mais je trouve malgré tout cette écriture vocale assez généreuse. En tout cas, c'est très bien écrit pour les voix. Il y a quand même de grands moments lyriques, en particulier les duos des deux amants. Qui d'ailleurs vont mourir dans leur étreinte. Et ces duos évoquent assez explicitement ceux du Tristan et Isolde de Wagner. Il y a une très grande diversité des tessitures, puisqu'il y a 14 convives sur scène, et une très grande diversité des tessitures, ça va de la basse profonde à la soprano colorature qui monte très très haut dans les aigus, et à travers cette diversité des tessitures, c'est la diversité des caractères, la diversité psychologique en réalité qui s'exprime.
Et la diversité aussi de ces personnages, vous l'avez dit, il y a une quinzaine d'interprètes, Emmanuel Dupuis, vous aussi Christophe Candoni, vous avez pris une claque, mais qu'est-ce qui vous a le plus marqué peut-être? Alors, Emmanuel a parlé de l'histoire du film, l'intrigue, on peut y revenir si vous le voulez, mais voilà, qu'est-ce qui marque le plus quand on sort de cet opéra-là ?
Alors, le premier événement que constitue le spectacle, c'est peut-être pas d'un point de vue artistique, mais plutôt d'un point de vue institutionnel, puisque c'est la première œuvre lyrique du compositeur Thomas Hadès qui est jouée à l'Opéra de Paris. Et c'est un choix de programmation qui est à la fois réjouissant, audacieux, dans la mesure où il s'inscrit dans une espèce de parcours, dans une ligne programmatrice qui, jusqu'ici, s'est constituée de plusieurs ouvrages, comme A Quiet Place, de Bernstein, ou l'année dernière Nixon in China de John Adams. Il y a ici là vraiment une manifestation d'un esprit d'ouverture aux œuvres américaines, anglo-saxonnes, à l'Opéra de Paris. Alors même qu'auparavant, elles étaient, me semble-t-il, plutôt ignorées.
Totalement.
Donc là, pour le coup, ça fait déjà événement.
Ça, c'est le premier bon point, si ensuite, on peut dire. On avait quand même connu, pardon, je me permets de vous interrompre, oui. Mais Thomas Hadès était déjà venu avec un ballet.
Avec un ballet, la saison dernière,
oui, inspiré à l'Opéra de Paris. Comédie, et en même temps, c'était l'occasion de s'aventurer déjà dans une musique assez pharaonique, on pourrait dire, avec des atmosphères très massives, très changeantes aussi. Et on retrouve ces qualités en termes de densité sonore dans la partition de Angel.
Donc reprenez l'ouverture de l'Opéra de Paris vers ces œuvres-là. Et ensuite, qu'est-ce qui vous marque dans cet ange exterminateur ?
Je crois que c'est presque un cliché de dire ça pour l'opéra, mais alors spécifiquement sur une œuvre comme celle-là, c'est l'impossible distinction entre musique et théâtre. Thomas Hadès se présente à la fois comme un compositeur, mais aussi vraiment comme un dramaturge, et il arrive à se saisir d'une matière complexe, même touffue, et de la charpenter d'un point de vue sonore, en faisant jaillir comme ça un climat musical étrange, vous avez dit au début, et ça c'est notamment illustré par des sonorités assez stridentes, sinueuses, assez troubles. Il fait jaillir ce son et en même temps il a vraiment les capacités en fosse de le dompter pour ménager quelques rares moments d'accalmie et même de tendresse, on vient de l'entendre dans l'extrait diffusé. Mais à ça, bien sûr, il y a la dimension théâtrale de la pièce. Et Calixto Bieto réalise, à mon sens, un spectacle époustouflant.
Le metteur en scène.
Voilà. Calixto Bieto, c'est un artiste qui est connu pour adopter un geste volontiers décadent, saccageur. Et parfois même, ce geste provoque une sorte de colère de la part du public ou d'une partie du public de l'opéra. Et tout ce qui est censé susciter donc la contestation est, à mon avis, l'atout majeur de sa mise en scène ici. C'est-à-dire qu'il est complètement dans son élément quand il s'agit de donner vie à un huis clos. On ne peut plus suffocant, on ne peut plus subversif.
Emmanuel Dupuis, c'est un opéra qui avait été monté en 2016 au festival
à Salzbourg.
Voilà, en Allemagne.
En Autriche,
qu'est-ce que je raconte n'importe quoi. J'avais noté Francfort, c'est pour ça que je vous dis Allemagne, donc c'était à Salzbourg. La mise en scène là qui est proposée à Paris est très différente. Il y a véritablement la patte de ce metteur en scène dont parlait Christophe.
Complètement. Moi, j'avais eu la chance d'assister à la création à Salzbourg, donc. Le spectacle était tout à fait convenable, mais je me disais quand même qu'il y avait moyen de tirer d'un tel sujet quelque chose d'un peu plus incandescent, d'un peu plus délirant. Et là, bon, avec Calixto Bieto, effectivement, j'ai été servi. Vous parliez de contestation du public. Bon, en réalité, non, le public, moi j'ai assisté à la première, et le public, quand le metteur en scène est venu saluer, ça a été des acclamations, parce que en réalité, le spectacle de Calixto Bieto est totalement respectueux de la narration, totalement respectueux du livret, même s'il apporte évidemment une dimension personnelle. Il faut préciser que son spectacle est, il y a une dimension physique dans son spectacle parce qu'on a ce grand décor blanc avec des lumières assez crues. Et dans ce contexte, Biéito montre le vacillement des corps, des âmes, leur dépravation avec une vérité, avec une cruauté qui est assez rare à l'opéra, une vérité physique qui, en tout cas, à laquelle on assiste rarement.
Il y a quelque chose de très organique dans cette mise en scène. Il y a des fluides. Je parlais de sang qui tâche. Il y a aussi des bagarres. Enfin, oui. Véritablement des choses très physiques, très très organiques.
Mais on est en présence d'une société de grands bourgeois qui, à la fin, va se retrouver carrément à l'état animal, quoi. Et c'est cette lente déchéance que pendant 2 heures, Callisto Béito montre jusqu'à la fin. Alors, je ne sais pas si on va spoiler la fin, mais à la fin, il se passe un truc. Avec le décor qui est totalement époustouflant, spectaculaire, pendant que le chœur chante un libérame jusqu'à la transe, Biéito réalise un geste théâtral qui fait vraiment totalement écho à la musique et qui est époustouflant.
C'est là où on se dit vraiment, on est à l'opéra.
Totalement.
On est à l'opéra. Christophe Candoni, on a aussi donc cette musique peut-être dont on a parlé. J'ai pu comprendre qu'il y avait aussi une forme de nouveauté, en tout cas chez Thomas Hadès, c'est les musiques électroniques et ces ondes, ces côtés très stridents. Alors ça, est-ce que vous voulez nous expliquer? Et puis ce chœur aussi, peut-être revenir là-dessus. Emmanuel.
Alors, il y a un instrument électronique, en réalité, ce sont les ondes Martenot. Les ondes Martenot, c'est un instrument très ancien, en réalité, qui a été inventé dans les années 30 et qui... qu'Olivier Messiaen c'est l'ancêtre du synthétiseur, d'une certaine manière. Et Olivier Messiaen l'a beaucoup utilisé. Et pour Olivier Messiaen, l'onde Martenot, c'était la voix des anges. Et Thomas Hadès reprend cette analogie à son compte, puisque en l'occurrence, l'onde Martenot, c'est la voix de cet ange exterminateur, c'est-à-dire cette force maléfique qui va diriger les personnages dans cette situation totalement absurde et délirante.
Situation, allez-y.
C'est pas un paradoxe, en fait, la modernité de la musique de Thomas Hadès, c'est peut-être aussi le télescopage d'un certain nombre de références, d'inspirations très variées. On entend plein de écho à la musique baroque, on entend de la valse viennoise traitée évidemment sur un mode ironique, puisque on associe ce rythme endiablé de la valse à l'aréopage bourgeois qui se présente sur scène. Ça participe aux élans lyriques. Il y a quand même une écriture, d'ailleurs plus vocale qu'instrumentale, qui va assez loin dans ses retranchements, c'est-à-dire qu'il cherche vraiment à pousser les limites de la voix jusqu'aux extrêmes. Et ça, c'est intéressant parce que ça pourrait être dangereux, c'est-à-dire on n'a pas encore parlé de la distribution des artistes réunis.
Allons-y.
Et on voit en fait que ils sont un peu mis à rude épreuve quand même.
Jusqu'aux extrêmes, ça veut dire quoi très concrètement?
Ça veut dire qu'on va utiliser les parties les plus extrêmes de la tessiture, ou qu'on va les faire vociférer comme ça sur un orchestre lui-même déjà grondant, hurlant, etc. Et en fait, ce qui est assez passionnant à observer ici, c'est l'aisance, le naturel, la justesse de cette distribution assez jeunes, dont certains font leur premier pas à l'Opéra de Paris, d'autres dans des rôles plus secondaires appartiennent à la récente Académie qui a été élaborée par Alexander Neff. Donc une distribution assez jeune et tellement surinvesti d'un point de vue et du chant et du jeu que évidemment l'intensité dramatique de cette partition ne peut qu'advenir.
2 heures d'opéra, 2 heures d'intensité, vous êtes d'accord, Emmanuel Dupuis? Il y a de l'humour aussi.
Il y a beaucoup d'humour, effectivement, mais c'est sûr qu'on s'en sort totalement secoué, hein. Mais bon, pour moi, c'est Thomas Hadès, est un des plus grands compositeurs vivants. Cet opéra, c'est son troisième, et comme les deux autres, je considère que c'est un chef-d'œuvre d'aujourd'hui. Il faut vraiment découvrir cette musique. Et là, et en plus, cet opéra-là est totalement galvanisé par la mise en scène, par une direction d'acteurs qui pousse effectivement les chanteurs dans leur retranchement. Moi, j'ai du mal à distinguer un chanteur plutôt qu'un autre parce qu'ils sont tous ils sont tous totalement investis. Bon, il y aura peut-être une mention particulière pour Gloria Trenel qui chante la diva Laetitia et qui a des aigus complètement irréels. Alors là, effectivement, le Thomas Hades pousse la voix dans ses extrêmes. Et puis aussi pour Anthony Ross Costanzo qui est un contre-ténor.
Ah oui.
Et qui réalise un numéro de crise de nerfs permanent qui est assez savoureux quand même.
Moi, je voudrais juste citer quand même Amina Edris et Philippe Emmanou, parce que effectivement, ils se distinguent notamment parce que ils défendent les parties les plus lyriques de la partition et qu'ils forment un couple d'amoureux que je trouve extrêmement lumineux dans le désespoir et la dépravation dont on parle depuis le début de l'émission. Il y a quelque chose de très charmant et très émouvant dans leur incarnation de ces rôles. Et puis à côté, il y a le côté un peu frêle de l'amour représenté par le couple de jeunes. Et puis il y a Jacqueline Stucker et Nikki Spence qui se présentent comme un superbe contrepoint en hôte un peu ogresque, on pourrait dire, tout à fait éblouissant mais très claironnant aussi. Et ça, c'est intéressant.
L'ange exterminateur de Thomas Hades, c'est jusqu'au 23 mars à l'Opéra Bastille. L'opéra sera diffusé chez nos confrères de France Musique le 20 avril 2024 à 20h dans l'émission Samedi à l'Opéra.
Jusqu'à 13h30, les midis de culture, Nicolas Herbeau, Géraldine Mosna-Savoie.
Nous parlons à présent d'un disque d'un quatuor de cordes qui interprète les œuvres du Norvégien Grieg et du Tchèque Smetana.
Second mouvement de ce quatuor en mi mineur du compositeur tchèque Bedřich Smetana qui s'appelle donc « Ma vie ». Il a été composé 10 ans avant sa mort, à un moment où justement sa vie est heurtée par un drame personnel. Smetana est frappé d'une surdité brutale qui va l'empêcher de poursuivre ses activités. Les quatre mouvements oscillent entre jeunesse, air plus joyeux, premiers amours, mais aussi donc douleur. Il y a quelque chose de très intime ici qui tranche avec les compositions plus connues du compositeur. Pour le Norvégien Grieg, la démarche est similaire. Son quatuor en sol mineur est bercé de romantisme, de poésie, mais aussi par une puissance dramatique, reflet là aussi donc des épreuves de la vie, du deuil et d'un amour qui se défait. Pour Grieg, comme pour Smetana, Christophe Candoni, comment jugez-vous l'interprétation de ce quatuor Modigliani ?
Bah, j'ai trouvé ça très beau, tout simplement. En fait, le quatuor Modigliani, il occupe quand même la scène musicale chambriste depuis une vingtaine d'années. Il s'illustre assez parfaitement dans un répertoire très vaste, où trouvent leur place bon nombre de compositeurs classiques, romantiques, des plus modernes, des créateurs d'aujourd'hui. Et là, ces artistes mettent en valeur deux compositeurs, plus rares, néanmoins passionnants. Le Norvégien Edvard Grieg et le Tchèque Smetana, comme vous avez dit. Deux compositeurs qui, a priori, ne se côtoyaient pas, mais qui étaient contemporains l'un de l'autre dans la deuxième partie du 19e siècle, et qui ont quasiment au même moment composé leur premier quatuor à cordes. Et ce qui frappe dans l'enregistrement dont on parle, c'est la manière dont l'intimité hyper tourmentée de ces artistes restitué de manière presque épidermique par les artistes du quatuor Modigliani. Après, le geste, il est intéressant parce que on n'est pas du tout dans une approche complaisante de morosité, de noirceur. Au contraire, je pense que ce qui fait la première qualité des interprètes sur ce disque, c'est l'extrême vitalité de cette interprétation. Il y a quelque chose de vif, de vigoureux, de presque violent, et qui contredit l'austérité attendue par justement l'intériorité extrêmement souffrante des compositeurs dont on parle.
Il y a des variétés dans les quatre mouvements à chaque fois, Emmanuel Dupuis. Cette violence, elle s'explique comment, selon vous? On est dans un moment de l'histoire aussi, à la fin du 19e siècle, où il y a des nationalismes qui s'expriment. Il y a quelque chose aussi qui les porte au-delà de l'intimité ou pas?
Oui, tout à fait. La question de l'identité nationale pour Grieg et Smetana est centrale, parce que c'était deux jeunes nations, la Norvège et d'un côté et la Bohème de l'autre, et les deux compositeurs, à travers leur musique, expriment l'identité nationale de leur jeune nation, notamment en truffant leur écriture de thèmes populaire, mais là, ce qui est frappant dans l'interprétation, c'est l'engagement des musiciens. C'est un jeu absolument sans concession. Il y a jamais aucune baisse de tension dans ce quatuor de Smetana là, dont on a entendu un extrait. Il y a une prise de risque maximale. Il y a un mélange de lyrisme, mais aussi d'ardeur et toujours une très grande justesse dans l'expression. Ça n'est jamais mièvre. Ça ne verse jamais dans le sentimentalisme, alors que souvent ce genre de musique verse dans quelque chose de sentimental, notamment dans le troisième mouvement qui est le cœur de l'œuvre. Ce qui frappe aussi, c'est l'unité des quatre musiciens. Ils font corps, ils respirent ensemble, ils se répondent avec une très grande fluidité. Et puis, dans ce quatuor de Smetana, ce quatuor est sous-titré « De ma vie » parce qu'il y a une dimension autobiographique. Smetana prétendait décrire des épisodes de son existence à travers ce quatuor, en particulier dans le dernier mouvement. Ce mouvement commence dans la joie, et cette joie est brisée tout d'un coup par une note très aiguë du violon, un mi aigu, et cette note très aiguë représente l'apparition de la surdité que vous évoquiez tout à l'heure. La surdité qui, évidemment, pour Smetana, est un grand drame. Pour tout musicien, c'est un drame. Enfin, pour toute personne qui n'est pas musicien, déjà, c'est un drame, mais pour un musicien, c'est encore davantage. Il y a donc là un côté narratif, imagé, qui est aussi très bien rendu par le quatuor Modigliani, et puis cette interprétation après se termine dans une forme d'apaisement, tout doucement, comme une bougie qui s'éteint, et c'est assez bouleversant.
Oui, cette épreuve, elle arrive dans la vie de Smetana au moment où il compose peut-être l'un des airs les plus connus, hein, celui de la Vltava, cette rivière qui traverse Prague et une partie de la Bohème, effectivement. Et c'est ensuite qu'il va aller vers ce quatuor. Il y vient très tard, Smetana. C'est important de le noter. Ça apporte quelque chose aussi à ce quatuor, Emmanuel Dupuis. Comment on interprète ça?
Il vient à cette forme assez tard, effectivement. Enfin, Smetana a abordé toutes les formes, hein, l'opéra, la musique symphonique, et puis la musique de chambre, finalement. Ce qui est important, c'est cette dimension autobiographique. Donc, c'est un petit peu un résumé de l'existence de Smetana.
Quatuor en sol mineur, numéro 1, opus 27, donc d'Edward Grieg, interprété dans ce disque par le quatuor Modigliani. Un mot, Christophe Candoni, sur ce deuxième compositeur norvégien, donc. Là aussi, une forme d'autobiographie et d'œuvre très intime. Hein.
Oui, alors on retrouve effectivement l'impression que Grieg a beaucoup donné de lui-même dans cette partition. Alors lui, il n'était pas atteint de surdité, mais il est aussi confronté à de nombreuses pertes, et notamment celle de l'inspiration. Hein, ce qui fait caractériser sa musique de plus miniature. Et moi, ce que j'aime dans cet enregistrement, c'est que justement, on évite ce côté un petit peu cliché. Je trouve au contraire que vous avez parlé du poème symphonique Ma patrie de Smetana, et que ce soit chez Smetana ou chez Grieg, il y a chez le quatuor Modigliani une très belle densité sonore, beaucoup d'amplitude, probablement due aussi à la captation du son qui se fait très très proche des instruments et qui donne une impression presque d'immersion dans cette musique. Et cette densité-là, c'est beau, ça donne beaucoup de relief à la musique. Chez Grieg et chez Smetana, il y a, on l'a dit, une part très sombre, mais ici, elle est assez rapidement contestée par l'allégresse. Qu'on entend dans cette interprétation. Et notamment parce que les instrumentistes accentuent les traces de folklorisme, l'aspect très chantant, très dansant de la musique. Ça aussi, c'est une qualité de cet enregistrement.
Ils n'ont pas perdu cette joie qui existe dans ce quatuor, Emmanuel Dupuis.
Non, ça ils l'ont pas perdu. Mais enfin, ils n'ont rien perdu parce qu'en fait, en réalité, il y a des atmosphères extrêmement changeantes dans ce quatuor et il y a vraiment des contrastes que les Modigliani soulignent très bien dans leur interprétation. On passe de moments fiévreux à d'autres plus recueillis, mais tout ça est intégré dans un flux, dans une grande arche parfaitement construite, une seule coulée, mais une coulée de lave, parce que c'est vraiment un jeu incandescent. Moi, ce qui me frappe, c'est que dès les premières mesures de ce quatuor, on est pris à la gorge, on est pris aux tripes presque par l'engagement des musiciens. Ils ont tous évidemment un niveau technique absolument superlatif. Ça, on peut même pas émettre la moindre réserve là-dessus. Mais c'est surtout le côté électrisant de leur interprétation qui nous happe littéralement.
Un dernier mot peut-être sur cette association entre les deux. C'était une association parfaite entre ces deux compositeurs, Christophe Grandoni.
Oui, je le pense, d'autant plus que c'était un couplage, à ma connaissance, inédit. Donc ça ajoute aussi beaucoup d'intérêt à la proposition de ce quatuor. Complémentaire et une espèce d'osmose, comme ça, des deux morceaux.
Amaury Coeto, Loïc Rio au violon, Laurent Marfin à l'alto et François Kieffer au violoncelle. C'est le quatuor Modigliani qui nous propose chez Mirare ce disque Grieg, Smetana. Donc merci à tous les deux. Emmanuel Dupuis, on vous lit dans Diapason. Christophe Candoni, on vous lit sur le site Scène Web et on vous met toutes les références sur le site de France Culture à la page de l'émission.